Bonjour et bienvenue à tous et à toutes en cette belle journée d'hiver. Nous allons ce matin parler d'un sujet que nous avons déjà évoqué dans les prières. Prions ensemble. Seigneur, tu es un Dieu d'amour et tu penses à chacun, Seigneur. Tu confies à certains des biens, d'autres n'en ont pas, Seigneur, et tu veux nous montrer le bon usage des ressources que tu nous confies, Seigneur. Et nous voulons te demander de nous enseigner, et Seigneur, pas seulement un niveau intellectuel ou théologique, mais aussi d'une façon pratique. Merci parce que tu pourvois d'une façon ou d'une autre, Seigneur, tu veux, Seigneur, nous donner aussi un amour pour ceux qui nous entourent, Seigneur. Nos cœurs peuvent être durs, nos cœurs peuvent se fermer, mais toi, tu nous parles, tu veux nous enseigner. Seigneur, nous te remettons ces moments, pensons à tous nos frères et sœurs en voyage, en famille. Bénis-les aussi, Seigneur, et sois glorifié dans nos cœurs, dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Si vous voulez vous tourner avec moi dans Luc 16, c'est vrai qu'en ce moment, avec l'hiver qui arrive, avec le froid, on commence à parler un peu plus des personnes qui sont dans la rue, des personnes qui sont mal logées. On estime à peu près en France à 3 millions, entre 3 et 4 millions de personnes qui ont des logements précaires. C'est-à-dire des logements en hôtel, dans des centres d'accueil. On ne parle même pas des skieurs logés dans les gymnases du côté de Chambéry. Ça, c'est un phénomène à part. Mais ce qui est plus terrible, c'est de savoir qu'il y a à peu près 150 000 SDF, des gens qui vivent dans la rue ou qui meurent dans la rue, surtout l'hiver. Ce nombre a augmenté de près de 50%. Il a doublé en près de 3 ans seulement. Et parmi ces 150 000 sans logis, sans domicile fixe, on estime à peu près à 30 000 le nombre d'enfants. Ça, c'est une situation qui nous interpelle. Une situation dont la Bible nous parle beaucoup. Il y a toujours une espèce de malédiction ou de vision des choses qui font qu'on pense que... Quand j'étais gosse, on me disait si tu travailles pas à l'école, si tu fais pas tes devoirs, tu finiras balayeur dans la rue. Aujourd'hui, balayeur dans la rue, employé par une municipalité, c'est un bon job. Il y a des avantages sociaux, il y a des heures, mais c'est vrai que on a tendance à penser que si ces gens se retrouvent dans la rue, dans des circonstances très difficiles, quelque part, c'est un peu de leur faute. Puis en plus, ils boivent de l'alcool, comme si c'était la cause. Bien souvent, c'est la conséquence pour oublier leur situation. Ils se réchauffent comme ils peuvent. Et puis il y a l'addiction, les phénomènes d'addiction. La plupart des gens qui sont dans la rue ont des troubles psychiques qui s'aggravent très rapidement. C'est une situation où chacun de nous a une part à jouer. On peut faire partie de la solution en ayant des initiatives, en donnant généreusement, en prenant soin des autres. Et c'est un thème, encore une fois, qui est souvent évoqué dans la Bible. L'apôtre Jean nous disait dans sa première lettre, 1 Jean 3, 17, encore une fois, c'est toujours intéressant pour ceux qui aiment se souvenir des passages de la Bible. En général, les adresses 3.16 ou par là sont des bonnes adresses. Et là, c'est 1 Jean, pas 3.16, mais 1 Jean 3.17. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il leur ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui ? Jacques, le demi-frère de Jésus, disait dans Jacques 2, 15 et 16, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux, vous, leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ?» Et c'est vrai que il est facile de fermer son cœur, de penser qu'il devrait y avoir quelqu'un d'autre qui s'occupe de ces personnes, la municipalité, les services sociaux, le SAMU, toutes ces organisations, les Restos du Cœur. Pourquoi les Restos du Cœur n'ont-ils pas encore évolué en Hôtel du Cœur ? C'est sans doute parce que nous ne sommes pas assez généreux avec les Restos du Cœur. C'est intéressant de voir que c'est une initiative privée qui est probablement l'organisme qui fait le plus de bien envers ces SDF ou ces gens démunis, ces gens pauvres, ces gens dans la précarité. Il y a bien sûr des œuvres chrétiennes, mais je crois que tous, on peut se laisser interpeller par l'Esprit et dire qu'est-ce que moi je peux faire ou qu'est-ce que moi je fais, comment est-ce que je peux aider mes frères et mes sœurs dans le besoin, ces enfants qui sont dans la rue. Alors c'est vrai, je suis comme vous, je ferme mon cœur parce que je vois que ce problème est toujours là. Il y avait l'abbé Pierre dans les années 50 qui avait pensé mobiliser les gens pour en finir une fois pour toutes. Et puis c'est vrai que si on prend soin des personnes d'ici, il y a des personnes d'ailleurs qui arrivent. Et là aussi, la Bible est toujours pleine d'attention pour l'étranger, pour l'immigrant. Ce ne sont pas des problèmes faciles, mais je crois que le Seigneur veut nous inviter chacun à faire notre part personnelle. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des grandes idées et qui arrivent à les mettre en œuvre. On a des outils comme Internet qui permettent de multiplier les actions. On en est maintenant à l'époque du crowdfunding. On peut lever des fonds et réaliser des projets en sollicitant des petits dons sur Internet. Mais s'il y a beaucoup de monde qui répond, à ce moment-là, comme Marie-Christine l'enseignait à Jenny, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Chacun, on peut faire quelque chose. Il y a un entrepreneur américain, celui qui a créé le système de compte PayPal. Il a aussi, c'est un gars qui a plein d'idées et qui se dit qu'en fait rien ne peut l'arrêter et qui lance ses idées. Là, il vient de lancer l'idée d'un train supersonique entre Los Angeles et San Francisco. Il passe pas par une entreprise, il sollicite des ingénieurs pour réaliser un espèce de véhicule qui voyagera comme les tubes dans les circuits pneumatiques. Et avec ce système, il pense, arriver à faire voyager les gens à la vitesse de la lumière, de la lumière, non, quand même pas, à une vitesse supersonique. Et mettre pour 20 euros San Francisco à portée de Los Angeles, ou 20 dollars. Et vous tous qui êtes touchés par ces problèmes, vous pouvez vous dire que moi, je pourrais faire quelque chose. Je pourrais faire du crowdfunding pour construire des logements pour les sans-abri, pour aider. Ce qui compte, c'est d'abord d'être sensible à ce que Dieu veut que vous fassiez. Et tous, on peut faire quelque chose. Tous, on peut utiliser nos ressources pour faire du bien autour de nous. Et c'est un peu le thème de ce chapitre que nous avons commencé la semaine dernière, de chapitre 16 de Luc. C'est la question du bon usage des richesses, du bon usage des ressources. La semaine dernière, nous avons parlé de l'intendant infidèle, cet économe qui avait décidé, parce qu'il allait être viré par son patron pour une mauvaise gestion, une gestion malhonnête des fonds, il avait encore quelques temps où il pouvait essayer de préparer son futur. Et c'est ce qu'il a fait en réduisant les dettes que les gens devaient à son maître. Et il pensait qu'ainsi il s'attirerait leur faveur dans le futur. Et c'est un passage un peu bizarre, parce qu'on voit quelqu'un de malhonnête qui fait quelque chose de malhonnête. Il réduit, il a la possibilité, il est encore en son pouvoir de réduire la dette que les gens ont envers son maître. Et on s'attend à ce que le maître le fasse mettre en prison, le maître s'insurge contre ce comportement doublement délictueux. Il est viré, mais il en profite encore pour tricher encore et pour. Mais on a vu que, contre toute attente, au verset 8, il est dit que le maître le félicite de cette façon de gérer. Il ne le félicite pas de sa malhonnêteté, mais il s'émerveille de ce que lui, qui n'a pas de foi, prépare le futur, prépare en utilisant ses ressources, ses possibilités, ses richesses, en quelque sorte, actuelles. Et le verset 9 nous dit « Moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles vous feront défaut. » Il faut se rappeler aussi du contexte. Jésus parlait devant des pharisiens qui voulaient sa peau. Des pharisiens dont il est dit au verset 14 qu'ils aimaient l'argent. Ils écoutaient tout cela et raillaient Jésus. Ils se moquaient de Jésus, ils lui faisaient l'original, c'est un peu, ils lui faisaient des pieds de nez en disant « Mais il va pas, de quoi il nous parle d'argent, lui, qui vit dans la pauvreté ?» Vous vous souvenez qu'il est dit que Jésus n'avait même pas de quoi poser sa tête, que les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais que le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où poser sa tête. Il se moque, il les reprend parce qu'il disait suivre la loi de Dieu, mais en fait ils étaient bien connus pour dire que on pouvait répudier sa femme si elle vous brûlait le repas. Ils avaient une vision très flexible de la loi dont ils se réclamaient. Et après les avoir repris de la sorte, Jésus continue, parce qu'encore une fois, ils aimaient l'argent. Pour eux, c'était un peu la doctrine de la prospérité avant l'heure. Ils pensaient que si on était riche, c'était un signe de notre justice devant Dieu, le fait qu'on ait des ressources, ça voulait dire que Dieu nous récompensait de notre vie, qu'il honorait, qu'il suivait. Mais on sait qu'ils avaient une fausse vision des choses, ils abusaient de l'argent, et c'est ce qu'on va voir dans ce passage. Ce passage bien connu de l'homme riche et du pauvre de la gare Saint-Lazare, qui s'appelait Lazare. Lisons ensemble à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, pas de félin, mais de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Désolé, c'est la parole de Dieu qui peut être surprenante par moments. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie aux tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi !» et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant ici il est consolé et toi tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. » Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscité d'entre les morts. » Ce passage nous parle du bon usage des richesses aussi. Et ce passage est intéressant parce qu'il lève le voile sur ce qui se passe après la mort. C'est intéressant de rechercher dans la Bible les passages qui nous parlent de ce qui se passe, on pourrait dire une seconde après la mort. C'est intéressant de ce que on se préoccupe beaucoup de ce qui va se passer après notre retraite, quand on va arriver à l'âge de la retraite. Est-ce qu'on a cotisé au bon endroit? Est-ce qu'on a une retraite par répartition, par capitalisation? Est-ce qu'on va... Mais il y a une espèce de consensus dans notre société pour s'arrêter de parler du futur après la mort. Ou alors, si on en parle, c'est de façon très vague, très non biblique. On ira tous au paradis. Eh oui, oh là là, formidable, pas de souci à se faire. Préoccupons-nous de la retraite. Mais après, s'il y a un Dieu, de toute façon on sait qu'il n'y en a pas, mais s'il y en a un, il est bon, et par définition, il ne peut pas envoyer les gens en enfer. Comment un Dieu d'amour pourrait-il envisager un lieu de souffrance? Si c'est ça votre Dieu, moi j'ai 2 mots à lui dire. Toute la sagesse, entre guillemets, populaire qui s'insurge contre l'idée d'un endroit de tourment et d'un endroit de félicité éternelle. Ça fait peur, l'éternité. C'est Woody Allen qui disait que l'éternité s'élonge surtout vers la fin. Notre vie ici-bas, elle est si courte. Et plus on avance en âge, et plus on réalise qu'elle est très courte. cette année encore, on a perdu des amis chers. On a Bill et Betty. Bill est décédé. Ça fait pas longtemps qu'il était ici, qu'on le voyait, qu'on le. Et puis du jour au lendemain, on peut partir. On peut partir. Où est-ce qu'on va? La Bible nous donne des informations. Il faut aller un peu regarder, mais on n'est pas sans instruction. Et ce passage, notamment, nous montre ce qui nous attend quelque part. Il y a des questions aussi de savoir est-ce que les choses ont changé depuis que Jésus est ressuscité. On va y revenir. Mais là, on voit une situation tout en contraste. Et la mort, on le voit aussi, renverse les tables. Elle remet les pendules à l'heure ou elle les bouleverse. Il est dit que là, il y avait un homme riche et puis un SDF. Aujourd'hui, on parlerait de l'histoire du trader et du SDF. Il y a des gens qui ont des... ou du footballeur talentueux. Aujourd'hui, il y a des disparités de ressources qui donne le vertige. Je me souviens à l'époque quand je travaillais à Seattle et qu'on commençait à parler de la richesse de Bill Gates. J'avais fait un petit calcul et je disais quand Bill Gates invite quelqu'un dans un restaurant très chic et très cher, à 100 euros le repas, c'est sans doute rien du tout pour les réveillons qu'on peut faire en ce moment. Ça revient à moi à donner un cure-dent à un ami. C'est facile à faire comme raisonnement. Il suffit de prendre sa calculette, d'aller sur Internet, voir l'estimation des ressources des uns et des autres. Et c'est toujours plus facile d'aller voir ceux qui ont plus que nous. Mais il est bon aussi d'aller voir ceux qui ont beaucoup moins que nous. Et donc cet homme riche, il menait la grande vie. Il était vêtu de pourpre. Aujourd'hui, on dirait qu'il portait des costards de Giorgio Armani, ou je ne sais pas qui, moi je ne connais pas trop, hein, vous pouvez... voir mes vêtements que il avait des vêtements couleur pourpre. Faisait cette coloration à partir de coquillages, des murex. Et c'était très rare, c'était très cher. Et puis il avait des sous-vêtements en lin fin. Et tous les jours, il menait joyeuse et brillante vie. Il faisait la fête tous les jours. Et puis à côté de ça, il y avait, et l'image est assez saisissante, il y avait ce SDF qui avait pris asile devant la porte de cet homme riche. C'est intéressant qu'on connaît le nom du pauvre, il s'appelle Lazare, qui veut dire « Dieu est mon aide » ou « Dieu me vient en aide ». S'il y a un débat, comme aime à le rappeler Tonio, quand on commence à lire les commentaires, il y a des pages entières qui ont été consacrées à savoir est-ce que c'est une parabole ou pas une parabole. Est-ce que c'est une illustration ou est-ce que c'est une histoire vraie? Si c'est une parabole, alors il ne faut pas trop chercher les détails, mais si c'est une histoire vraie, sans doute que les détails qui nous sont donnés sur la configuration topographique de l'enfer et du séjour des morts, c'est peut-être des choses à croire davantage ou dans lesquelles on peut prendre plus de détails. Mais peu importe, c'est Jésus qui raconte cette histoire. On peut imaginer que lui qui est la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui, il ne va pas raconter n'importe quoi sous prétexte qu'il vivait à l'époque où on avait certaines croyances. Non, je crois qu'on peut vraiment se fier sur les informations qui nous sont données pour en apprendre un peu plus sur l'enfer, sur le paradis. Toujours est-il qu'il y avait cet homme Lazare. C'est intéressant qu'il y avait un autre homme dénommé Lazare, le frère de Marie et Marthe, qui va être ressuscité par Jésus-Christ quand il est mort, quelques passages plus loin, dans Luc et dans les autres évangiles. Mais cet homme est couvert d'ulcères. Quand j'étais gosse, peut-être vous aussi vous l'avez fait, vous avez regardé les dictionnaires et avec les planches hors texte qui montrent les maladies de peau. Et là, c'est presque aussi graphique. On nous parle de cet homme qui était couvert d'ulcères. Il était couché à son portail, sans doute il était plus en état de bouger. Et puis il y a un petit détail qui rajoute à ce tableau peu ragoûtant le fait que les chiens venaient lécher ses ulcères. Les amateurs de chiens, les dog lovers, ceux qui aiment leurs petits chiens ou leurs gros chiens, prétendent qu'en fait il y a moins de microbes sur la langue d'un chien que sur la langue d'un homme. Je crois que aussi bien l'un que l'autre, vaut mieux pas se faire mordre parce que ça contient beaucoup de microbes. Et certains vont même jusqu'à dire qu'en fait, il y a des vertus anesthésiantes et des vertus cicatrisantes dans la bave d'un chien. Je ne le crois pas. Mais ça montre qu'il était vraiment dans un état lamentable. Il n'était même pas capable de chasser les chiens qui venaient le lécher. Certains disent que c'était le seul réconfort qu'il obtenait. Il est dit qu'il aurait aimé se rassasier ce qui m'ont tombé de la table du riche. À l'époque, il n'y avait pas de Kleenex, donc on s'essuyait les doigts quand on avait trempé la main dans le plat avec du pain, et ça, on le mangeait même pas, on le jetait par terre, les chiens le mangeaient, et c'est ce genre de miettes dont il aurait bien aimé pouvoir se rassasier. Un tableau tout en contraste, la richesse exagérée, la pauvreté exagérée, mais en fait, quelque part, rien n'a changé. Je me souviens, quand on se promène dans nos villes, on voit ces contrastes. À New York, on voit les limousines de luxe, ces voitures de luxe avec un châssis rallongé qui font presque 12 mètres de long avec le luxe à l'intérieur et en même temps les pauvres qui sont sur les bouches de métro, qui vivent dans la misère comme ce pauvre Lazare. Et puis il y a la mort qui intervient. La mort qui nous attend tous, avec qui nous avons tous rendez-vous, tôt ou tard, à moins que Jésus ne revienne de notre vivant, et à ce moment-là, il nous est dit que nous serons emportés avec lui avant la grande tribulation. Mais la mort, elle a ce don d'être la grande égalisatrice, celle qui met les pendules à zéro pour tout le monde. Le pauvre meurt, le riche va mourir aussi. Dans la mort, il y a souvent aussi une grande inégalité. Pour quelques instants seulement. Les instants des funérailles. On peut avoir des funérailles de riches ou des funérailles de pauvres. Là, on pense que le corps de Lazare, le pauvre, a été jeté sur cette vallée du côté de Jérusalem, où il y avait, à côté de Jérusalem, où on mettait les ordures, et la fosse commune, c'était de balancer les corps des gens qui n'avaient pas les moyens de s'offrir des funérailles. Par contre, il est dit que le riche fut enseveli, c'est-à-dire qu'il y a une cérémonie funéraire, probablement qui a coûté cher, qu'il a pu s'offrir avec sa fortune. Mais passé ces derniers instants d'inégalité, on voit que tout est renversé. Le riche se retrouve dans un endroit de tourment, et le pauvre, lui, est porté par les anges dans un endroit de bien-être qu'on appelait ici le sein d'Abraham. Alors certains disent oui, les riches vont en enfer parce qu'ils ont eu leur part de bonheur sur terre, et les pauvres vont au paradis parce qu'ils ont souffert ici. Ça, c'est peut-être la sagesse populaire qui pense que tout est compensé à la fin, et que si on en a bavé ici, on va avoir un peu de félicité plus tard. Et puis l'inverse, si on a vécu dans la richesse, alors on va souffrir un peu plus tard. Mais on sait que la seule façon d'être sauvé, d'aller dans un endroit de bonheur et de félicité éternelle, c'est de se mettre au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ. On connaît des riches qui sont des chrétiens, qui font un bon usage de leur richesse, qui bénissent ceux qui ont moins de moyens. Nancy et moi avons connu un riche banquier qui était chrétien, qui est décédé il y a pas très longtemps, il y a un an à peu près. Mais c'était un homme qui faisait beaucoup de bien autour de lui avec ses ressources. Et je crois qu'il est au ciel. Il n'est pas puni en enfer parce qu'il a eu des ressources. On peut utiliser ces ressources à bon escient, faire du bien, mais ce qui va nous sauver, encore une fois, ce n'est pas notre richesse, notre pauvreté, c'est le fait que nous mettons notre foi en Jésus-Christ. L'enseignement de la Bible est très clair. L'enseignement de la Bible est aussi très clair sur le fait que si nous avons la foi, alors nous allons avoir les œuvres. Si nous croyons en Jésus comme notre Sauveur, nous n'allons pas vivre en ignorant ceux qui nous entourent. Quelqu'un a dit, et je crois que c'est très juste, l'opposé de l'amour, c'est pas la haine. L'opposé de l'amour, c'est l'indifférence. Combien de fois est-ce que je passe devant des personnes qui sont dans la pauvreté abjecte, qui sont là sur le trottoir en train de mendier, et je ne détourne même pas mon regard pour ne pas avoir à établir un contact qui fera que je ne pourrai pas passer indifférent. L'indifférence. Il est intéressant que sur Terre, l'homme riche était indifférent à la souffrance de Lazare. Il faisait partie du décor. un peu comme on voit des gens qui font partie du décor dans nos villes. Il y a la question aussi du scandale des municipalités qui cherchent à chasser la mendicité, les SDF du centre-ville en mettant des systèmes variés. Vous vous souvenez, à l'époque, il y avait les bancs publics. Maintenant, il y a des fauteuils publics. Rien qu'en haut de l'avenue Aimé Martin, sur le petit square, on voit qu'on a mis du mobilier urbain qui empêche les SDF de s'installer. Alors, je ne dis pas que ce soit la meilleure solution, c'est de pourvoir des bancs, mais encore une fois, il faut examiner notre cœur. C'est facile de critiquer la municipalité. À Paris, dans le métro, il y a maintenant il n'y a plus de bancs, on n'installe plus des bancs, on installe des appuis-fesses. On peut s'appuyer entre deux barres, mais je vous mets au défi d'essayer de dormir sur ces barres. Encore une fois, la Bible doit, si elle est bien reçue, elle va questionner mon cœur. Elle ne va pas me donner des raisons bibliques de critiquer telle ou telle autre personne ou tel autre groupe. Alors, il est question d'un séjour des morts. En hébreu, c'est le mot qui est des fois simplement transcrit « Sheol ». En grec, c'était le mot « Hadès », le séjour des morts. Il y a une version très intéressante de la Bible qu'on appelle la Bible des Septante, qui est une traduction faite à Alexandrie par des lettrés hébraïsants. Comme le grec devenait la langue parlée, connue même de beaucoup d'hébreux, c'est 70 sages, pour ça qu'on l'appelle la Bible des Septante. Ils parlaient belge déjà à l'époque, les Septante, les 70 sages. Et on peut voir comment des mots de l'Ancien Testament en hébreu ont été traduits en grec. Et ça permet de mieux comprendre les choses dans le Nouveau Testament aussi bien que dans l'Ancien Testament. C'est une mise en relation des expressions du Nouveau et de l'Ancien Testament. Et donc, il y avait cet endroit qu'on appelle le séjour des morts. Et là, apparemment, il y avait deux compartiments. Il y avait un compartiment, on pourrait dire une première classe, un chouette compartiment, un séjour de bonheur qui était le côté d'Abraham, où il est des fois appelé le sein d'Abraham. Encore une fois, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, lorsqu'on était en relation avec quelqu'un, Jean, il est dit qu'il était assis dans le sein de Jésus, il était auprès de Jésus. Les gens mangeaient couché sur des canapés, et être dans le sein de quelqu'un, c'est d'être proche et d'être en relation étroite d'amour et de confiance et d'amitié profonde. Donc là, le sein d'Abraham, c'était Abraham, l'ancêtre de la foi, qui était là et qui était dans ce compartiment, le sein d'Abraham, et de l'autre côté, il y avait ce qu'on appelait un endroit de tourment. Et les deux étaient séparés par un grand abîme, verset 26, qui interdisait le passage d'un endroit de tourment vers l'endroit de félicité. L'endroit appelé le sein d'Abraham, je crois que c'est aussi l'expression qui est traduite des fois par paradis. On ira tous au paradis. C'est faux, on va y revenir. Le terme qui est utilisé dans la Bible, dans l'Apocalypse notamment, c'est le ciel. C'est pas le paradis. Mais le paradis, c'était cet endroit de félicité. Et il y avait donc cet autre endroit qui était un endroit de souffrance. Ce qui est intéressant aussi, et qui nous donne quelques informations sur ce à quoi on peut s'attendre, on va aller voir à la lumière d'autres passages pour se faire une meilleure idée. Mais il y avait une conscience. Souvent les gens pensent que si un enfer, c'est un endroit où on est annihilé, on n'existe plus. Et de la même façon qu'on ne se souvient plus, je ne pense pas que vous vous souveniez de ce qui s'est passé avant votre naissance. De la même façon, certains pensent qu'après la mort, il n'y aura plus de conscience de ce qui se passe. Il n'y aura plus de souvenirs. Là, au contraire, il est clair que l'homme riche est conscient de sa situation. Il est dans la souffrance, il est dans un endroit où il fait très chaud, il a soif parce qu'il fait... Il souffre dans une flamme. L'enfer. Alors c'est pas... On y revient dans un instant. Il y a une conscience. Là, apparemment, ceux qui sont en enfer peuvent voir ceux qui sont du bon côté des choses, toujours séparés par ce gouffre. Et ce riche, il réalise enfin qu'il a mal vécu, qu'il a eu tout faux, qu'il a vécu dans la richesse en ignorant les pauvres. Et il parle à Abraham. Il se réclame, parce qu'il était juif, d'Abraham comme son père. Et il supplie Abraham d'envoyer Lazare, c'est intéressant, il connaissait le nom de cet homme à qui il n'avait jamais adressé la parole, à qui il n'envoyait jamais un petit Tupperware avec des restes. Il connaissait son nom, mais il le considérait toujours comme un inférieur. Là, il va le considérer comme un domestique qui peut être envoyé par Abraham pour prévenir sa famille qu'il y a vraiment un enfer. Et Abraham a cette réponse. Donc il a, pour la première fois, cet homme riche semble se soucier des autres. Alors c'est vrai que c'est un peu égoïste, il se soucie des siens, il se soucie de ses frères, mais il aimera que Lazare aille les prévenir, va les prévenir. Et Abraham lui répond, ils ont déjà tout ce qu'il faut pour croire, pour être sauvés. Il y a récemment, dans les mouvements chrétiens, il y a eu ce qu'on a appelé, avant la doctrine de la prospérité, il y avait la doctrine des signes et des prodiges. Et qu'en fait, pour que les gens viennent à croire en Christ et à son salut, il fallait que ce soit accompagné de grands miracles. Donc les gens priaient pour des miracles, pour des guérisons spectaculaires. Et on sait que quand il y a des miracles, ceux qui ne veulent pas croire trouvent des rationalisations. Oh, il a guéri du cancer, mais ce n'était pas un cancer sérieux. C'était une forme bénigne. Ou c'est la chimiothérapie qui a vraiment bien marché dans ce cas. Et on sait que, à l'époque de Jésus, il voyait des guérisons, il voyait des miracles. C'est pas pour autant que tous ceux qui les voyaient se sont convertis à Jésus, ont mis leur confiance en lui. Parce qu'en fait, c'est pas ce n'est pas les miracles qui nous font venir à la foi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Là, il leur disait, ils ont déjà Moïse et les prophètes. Moïse, ça voulait dire la Torah. Qu'est-ce que tu me dis? Ils ont déjà là, ils ont toute la Torah, ils ont les 5 premiers livres de la Bible, ils ont tous les récits des prophètes. Il y avait aussi les psaumes. S'ils n'ont pas écouté cette révélation, rien ne va pouvoir les amener au salut. Même s'ils voient quelqu'un ressuscité entre les morts, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscité d'entre les morts. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend la parole de Christ, Romains 10, 17. Pourquoi est-ce que la foi vient de la parole? Parce que dans la parole, il y a plein de promesses. Et si je commence à faire confiance à Dieu pour exaucer une de ses promesses dans ma vie, et que je vois qu'elle est exaucée, alors je suis prêt à lui faire confiance un peu plus la prochaine fois que j'ai une situation difficile, un dilemme. Et plus je le connais, plus je vois qu'il est digne de confiance. Et je peux lui remettre mon existence présente, mais aussi les quadrillions d'années qui seront juste le début de la vie éternelle. Et toute la vie éternelle. Et Jésus savait de quoi il allait parler. Un peu plus loin, on verra que l'autre Lazare, l'ami de Jésus, a été ressuscité. Et dès qu'il a été ressuscité, les gens se demandaient, les chefs religieux qui étaient opposés à Jésus, à ses miracles, cherchaient déjà à faire mourir Lazare. Comment ils pouvaient faire mourir Lazare et Jésus? Ce n'est pas les miracles qui nous amènent à la foi. Dieu peut agir miraculeusement, mais c'est par générosité qu'il agit. Il a une puissance infinie et c'est aussi quelqu'un qui a de la compassion. Et il peut sauver quelqu'un. Il peut nous protéger. Il peut nous laisser aussi passer par des épreuves terribles en nous donnant la force de ne pas nous effondrer. Et donc, ce récit, si c'est une parabole, c'est la seule parabole dans toute la Bible où il y a un nom de personne qui est donné. C'est pour ça que certains pensent que c'est en fait une histoire basée sur une réalité. Peu importe, je crois que les leçons sont les mêmes et qu'il y a cette structure du paradis, de l'enfer, du séjour des morts, qui nous est un peu révélé. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a des passages dans la Bible. Il y a Ésaïe 61, c'est bien parce que ce n'est pas seulement dans un endroit de la Bible, mais dans plusieurs. On voit... Non. Est-ce que j'ai le bon passage ? Ésaïe 61, les premiers versets, c'est un verset que Jésus va reprendre plus tard lorsqu'il va lire ce passage dans la synagogue. Il va dire que cette prophétie est réalisée devant leurs yeux. Il est dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, leur libération. » Le fait qu'ils sont dans un endroit confiné, d'un seul coup on ouvre les portes, c'est élargissement. C'est un joli nom, ça je trouve. Et puis, il y a un autre passage dans Éphésiens 4. Vous pouvez noter ces passages. Paul parle de l'unité dans l'esprit. Et puis au verset 8 de Éphésiens 4, il dit « C'est pourquoi il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. » Et puis Pierre, dans 1 Pierre 3, 18, en effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Et puis il y a ce passage, lorsque Jésus est crucifié, il est crucifié, vous le savez, avec, on les appelle des brigands. Aujourd'hui, on dirait des terroristes. Ils étaient crucifiés comme exemple parce qu'ils s'opposaient à la société romaine, soit en faisant des mauvaises actions, soit en se rebellant directement contre l'ordre établi par la Rome impériale en Palestine. Mais vous vous souvenez qu'il y en avait deux et qu'il y en avait un qui disait « Toi, tu es le Christ, est-ce que tu ne peux pas te sauver et nous sauver par la même occasion ?» Et puis il y a l'autre qui lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice. » Il reconnaissait qu'il méritait de ce sacrifice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et là, il se tourne vers Jésus et lui dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il croit que Jésus est vraiment le Messie, qu'il va revenir. Et Jésus a cette réponse. Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ma conviction, la conviction de beaucoup de commentateurs, c'est qu'en fait ce paradis, c'est ce sein d'Abraham. Et que c'est une fois qu'il a été ressuscité, donc dans la foulée, il est descendu dans les parties inférieures de la terre, et il a prêché aux captifs, ceux qui étaient du bon côté. Il a en quelque sorte vidé le paradis. Donc les gens qui chantent « On ira tous au paradis », ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude et plus loin. Le paradis, cet endroit-là, aujourd'hui, il est vide. Les gens maintenant sont en présence de Jésus au ciel. Les corps sont dans la terre, ils attendent le jour de la résurrection. Et par contre, les gens qui sont morts sans Dieu, pour l'instant, ils sont dans cet endroit, ce séjour des morts, cet endroit de tourment. Ils ne sont pas encore en enfer. L'enfer, il en est question seulement dans l'Apocalypse, chapitre 20, où il est dit que le séjour des morts, l'enfer, il a été préparé pour Satan. Et pour ces anges de malédiction, ces anges iniques. Et il est dit que la mort et le séjour des morts, cet endroit dont Jésus nous parle dans Luc 16, est jeté dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc, ce qu'on appelle des fois l'enfer, ça, c'est cet endroit, cet étang de feu, un endroit de souffrance permanent, éternel. Et ce n'est pas Dieu qui nous jette en enfer, c'est nous qui allons nous-mêmes, lorsque nous suivons Satan en refusant de croire au sacrifice de Jésus-Christ. Et donc, avant la résurrection de Jésus, avant qu'il n'ait payé pour nos péchés, il y avait cet endroit, ce séjour des morts, deux compartiments, le sein d'Abraham, le lieu de tourment. Le sein d'Abraham a été vidé à la résurrection de Jésus. Par contre, il est plein de monde encore, et cet endroit va être vidé dans l'étang de feu. Le séjour de mort va être vidé dans l'étang de feu. Alors, est-ce que ça change quelque chose pour nous aujourd'hui? Je crois qu'il faut, vivre dans la crainte d'une punition éternelle. L'éternité, on l'accepte pour l'endroit de bénédiction, mais on a du mal à l'accepter pour un endroit de punition. Mais encore une fois, Dieu a tout fait. Dieu est juste. Et nous n'allons pas être punis injustement. Mais le péché, ce n'est pas quelque chose de « Oh ben, tout le monde le fait, et puis de toute façon, on ira tous au paradis, c'est pas grave. » Non, le péché, ça nous met en présence de Dieu, ou plutôt devant la présence de Dieu, ça nous éloigne de lui complètement. Il y a trois types de morts. Jacques nous parle de la mort qui est la séparation du corps et de l'esprit. Lorsque nous mourons physiquement, si vous avez déjà vu la dépouille d'un être cher, vous voyez... Le corps est là, la personne, entre guillemets, est là, mais vous savez qu'il s'est passé quelque chose. La vraie personnalité est partie, il manque quelque chose, c'est une coquille vide. C'est ce que nous dit Jacques, ça c'est la mort physique. Il est question de la mort spirituelle, c'est lorsque nous ne sommes pas venus à Jésus, nous sommes comme des zombies. Nous avons un corps et une âme, siège de notre volonté, de nos facultés de décision, mais nous n'avons pas l'esprit. Il nous faut naître de nouveau. Et puis, il y a la mort la plus terrible, c'est la mort éternelle. C'est d'être séparé pour l'éternité d'avec Dieu. Quelqu'un disait très justement, celui qui naît une fois mourra deux fois, et celui qui naît deux fois ne mourra qu'une fois. Ce n'est pas un rébus, mais ça veut simplement dire que si vous comptez de naître physiquement et que vous ne venez jamais à la naissance de l'esprit, alors vous allez non seulement mourir physiquement, mais vous allez mourir éternellement. Vous allez être pour l'éternité en enfer. C'est la deuxième mort. Au contraire, si vous naissez deux fois, vous naissez une première fois physiquement, et puis vous naissez spirituellement, à ce moment-là, il n'y aura qu'une seule mort, la mort physique, à moins que Jésus n'arrive avant. Mais vous n'aurez pas cette mort éternelle. Et encore, la mort, on voit que ce n'est pas un état de non-conscience. L'homme riche était bien conscient de sa situation. Et il se souvenait de ce qu'il avait fait, de ce qu'il n'avait pas fait. Et ça, c'est la chose la plus terrible, c'est... de penser à ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on n'a pas fait, de ce qu'on n'aurait pas dû faire et qu'on a fait. Et ce souvenir, c'est la source du remords qui ronge. La bonne nouvelle, c'est que tant que nous vivons, nous pouvons changer les choses. Nous pouvons nous consacrer à Dieu, nous pouvons nous tourner vers lui et être sauvés. Amen. Prions. Seigneur, merci de nous rappeler du bon usage des ressources que tu nous donnes, Seigneur, et aussi de lever le voile sur ce qui se passe après la mort, Seigneur. Merci de corriger les fausses notions qui circulent, de nous montrer aussi qu'on peut étudier ta parole pour avoir des informations sur lesquelles nous pouvons compter. Seigneur, sois glorifié dans nos vies. Seigneur, nous te remettons. Oui, nous ne voulons pas avoir de remords. Montre-nous ce que nous pouvons faire chacun de nous aujourd'hui pour aider ceux qui sont dans le besoin, des fois le besoin le plus abject. Seigneur, aide-nous à influencer ce qui peut être influencé, Seigneur, et aussi à donner de nos deniers, à soulager la souffrance autour de nous, sachant, Seigneur, que notre salut vient de ce que c'est toi qui es mort pour nous par amour, et si nous recevons ce salut, alors nous avons l'assurance d'une félicité éternelle, Seigneur, et nous sommes transformés. Nous voulons annoncer cette bonne nouvelle, nous voulons la donner, nous voulons la laisser nous transformer, nous donner un cœur généreux pour ceux qui sont dans la souffrance. Seigneur, notre prière, c'est que cette parole, elle ait des effets concrets dans nos vies, Seigneur. Donne-nous chacun de penser à ce que nous pouvons faire, de ce que nous allons faire cette semaine. Que ce soit acheter un sandwich si on ne veut pas donner de l'argent, sachant que souvent c'est utilisé pour de l'alcool ou du tabac. Mais tous pouvons faire quelque chose fort de la confiance que nous avons dans notre destinée éternelle. Prions ces choses dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.